20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez depuis le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Avec le CIC, partenaire fondateur.
Bienvenue à Aix-en-Provence pour ce journal du classique depuis le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence en public dans le hall du Grand Théâtre. Je remercie le public qui peut applaudir absolument. Merci. Voilà pour marquer votre participation et votre attention. Merci à Marc Minkowski qui est notre invité. Bonsoir.
Bonsoir, merci à vous.
Mais c'est un plaisir de vous recevoir. Vous dirigez ce soir La Résurrection de Handel avec bien sûr les musiciens du Louvre. Alors c'est une œuvre, on peut le dire, relativement peu jouée, peu programmée. Elle fait partie, elle est au répertoire des musiciens du Louvre depuis longtemps parce que vous l'avez enregistrée en 1995. On va en reparler. Mais on va tout d'abord saluer votre première venue finalement ici au Festival de Pâques. Vous êtes un habitué de l'autre festival, le Festival Lyrique, Aix-en-Provence l'été, vous venez régulièrement. En revanche, c'est la première fois. Une première venue était prévue avec une passion de Bach en 2020, mais voilà.
Et encore une autre
précédemment.
Avec les forces de l'Opéra de Bordeaux, il y a 6 ans, il y a eu un problème logistique de timing qui n'a pas pu rendre la chose possible. Donc je suis vraiment très content.
La troisième fois est la bonne, a priori.
Absolument. Bon.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ici, de répondre à l'invitation de Renaud Capuçon?
Alors, d'abord, Renaud est un ami, je l'ai accompagné souvent dans des concertos qui ont été des moments magiques. J'ai rencontré Dominique Bluzet plusieurs fois, j'ai assisté à l'ouverture de ce théâtre dans le passé. J'aime la région, j'ai passé quand même une grande partie de mon enfance, de mon adolescence dans le Luberon, à Roussillon, avec mes parents. J'ai assisté à des premières historiques comme l'Hippolyte Aréci de Gardiner et Pizzi en 83 ou 4, je ne sais plus. J'ai eu des grands moments dans ma propre carrière ici, Courmande Popée avec Gruber, et la fréquentation de plusieurs directeurs qui m'ont soutenu. Donc je suis très content d'être là, oui.
Bon, c'était une évidence, d'une certaine façon, de venir. Alors, cette résurrection de Handel, je le disais, c'est une œuvre qui vous est familière. Du moins, vous l'avez enregistrée en 1995, il y a presque 30 ans. Vous-même, à l'époque, vous aviez 33 ans. Qu'est-ce qui est
Jésus-Christ, mon Dieu.
Alors voilà, ça, c'est autre chose. Il y a la résurrection.
Voilà.
Qu'est-ce qui, à l'époque, vous a donné envie d'enregistrer cette résurrection, qui l'avait été, finalement, assez peu encore,
hein? Alors, Handel a toujours été mon idole. Il y a des Handel différents, les Handel de Londres, les Handel de la maturité, les Handel d'oratorio, d'opéra, etc. Il se trouve que la résurrection, c'est un peu un objet musicant non identifié.
C'est joli.
Et qu'à cette époque-là, j'étais bien imprégné du Handel romain. J'avais enregistré le Triomphe du temps et de la désillusion. Mon premier disque Handel que Michel Garcin et la maison Erato.
Qui est le premier oratorio d'ailleurs de Handel, Triomphe du temps. Ouais.
Garcin et Erato m'avaient fait confiance pour ouvrir cette voie discographique avec Handel qui depuis a fleuri. Voilà, donc cette résurrection, j'écoutais le disque de Christopher Hogood, il y avait encore des 33 tours et ça craquait de partout tellement je l'écoutais.
C'était votre référence pour l'enregistrement et pourquoi?
Parce qu'on découvrait cette œuvre écrite pour un orchestre très généreux, et puis on entendait des chanteurs extrêmement identifiés à leur rôle, Emma Kirkby en ange, même si on sait que j'aime les voix lyriques, c'est une voix, je crois qu'elle enseigne encore, inimitable, David Thomas, Patricia Quella, enfin toutes ces générations de chanteurs dits baroques anglais, mais qui avaient quand même beaucoup de versatilité, voilà. Donc, bercé avec cet enregistrement, c'était évident pour moi qu'un jour je devais l'enregistrer, le faire et en faire des concerts. Et avec Peter Czerny, le directeur de l'archive production Deutsche Grammophon, on s'est centré là-dessus. Nous avons enregistré Salvagram, lieu historique, avec les ondes de Maria Callas qui étaient encore flottantes. Et puis, on a donné quelques concerts. Et depuis, effectivement, je ne l'ai jamais refait. Il n'y a pas eu d'occasion.
Il n'y a pas eu d'occasion.
Beaucoup d'occasions sur le Triomphe del Tempo. Ouais. Moins avec cet ouvrage qui est une sorte de passion de Bach sans en être une sorte d'opéra italien sans en être un, une sorte de méditation religieuse, une espèce de variation variations sur un catéchisme qu'on ne connaît pas bien, parce que c'est écrit par des cardinaux romains et c'est l'histoire de la résurrection avec des personnages comme un peu différents d'habitude, des événements différents de ceux de la Bible. Tout ça fait que c'est surprenant.
Oui, ce qu'on ne sait pas, c'est ce que vous disiez, hein, O-M-N-I, là, finalement, objet musical non identifié. Parce que lorsque, il faut raconter un petit peu les circonstances de la création, Händel, il a 23 ans, il vient de Hambourg, il arrive en Italie, il veut s'imprégner justement du style musical italien, il veut faire de l'opéra, c'est aussi important pour lui. Le problème, c'est qu'à Rome, le pape a interdit toute représentation de l'opéra. Alors, est-ce que c'est pas un opéra déguisé, finalement, un petit peu, cette résurrection?
Il y a de cela, mais la structure des airs, la place des instruments, oui, regardez, il y a une place pour la viole de gamme solo qui est unique dans le répertoire de Händel. Probablement parce qu'il y avait un violiste star résident à Rome à ce moment-là, peut-être français, allemand, je ne sais plus exactement. Et quand vous entendez cette partie de viol de gamme incroyable, qui dialogue avec le violon, qui dialogue avec les voix, qui réalise des accords, vous pensez tout de suite à Bach, vous pensez à Telemann, vous pensez à l'Allemagne du Nord, c'est pas très italien. Et pourtant, il y a cette atmosphère quand même, ce narcissisme de la douleur de Marie-Madeleine et de Marie-Cléophas, ces divins gémissements des violons, des vents aussi qui ont un air avec un chromatisme complètement surnaturel. Vous avez aussi une espèce de tiepolo vivant qui, comme si les anges avec les trompettes sortaient du tableau pour vous inonder de décibels dès le départ. Ce Lucifer un peu carnavalesque qui est un loser mais qui est doté d'une musique extrêmement virtuose, alors très opératique du coup. C'est plein de contrastes. Et puis alors, de musique qu'on connaît d'avant et d'après.
Mais ce qu'il va réutiliser en plus, absolument. Certaines musiques. Voilà,
le plus surprenant, c'est un air de Marie-Madeleine, premier acte. Je ne sais ce que j'ai dans le cœur, mais une joie est en train de s'emparer de moi. Parce qu'elle sent que cette résurrection, elle sent que Jésus va réapparaître. Pour la même chanteuse, Margarita Durastanti, invitée ensuite avec lui à Venise, on écrit Agrippine, livret puissamment goldoniesque. Agrippine est une intrigante, une nymphomane même.
C'est
et
lui.
Le même air, les mêmes paroles sont employées par Agrippine, qui sent que sa drague du jour va fonctionner. C'est quand même... j'ai dans le cœur un bonheur qui m'envahit parce que ça va bien se passer pour moi. Et vous voyez, on passe vraiment du sacré au profane de la manière la plus directe qui soit. J'ai rarement vu ça ailleurs.
Alors, on va écouter justement un peu de musique. C'est la sonate d'ouverture de la résurrection. Les musiciens du Louvre, Marc Minkowski. l'ouverture de la résurrection de Handel, les musiciens du Louvre, Marc Minkowski, qui est l'invité ce soir du Journal du Classique depuis le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Résurrection que vous donnez ce soir. L'enregistrement qu'on vient d'écouter, donc c'était 1995. Est-ce que presque 30 ans après, votre vision de l'œuvre a changé? Le Minkowski de 95 n'est peut-être pas le Marc Minkowski de 2024. Est-ce qu'il y aura des changements ou pas?
Quelques-uns. Mais je pense que c'est ce soir que j'aurai la réponse.
Ah, vous l'avez déjà un petit peu quand même, non?
Répétitions, c'est une chose. Ouais. L'improvisation du concert en est une autre. Mais de toute façon, quand on aime une œuvre et un compositeur, c'est pour la vie. Et oui, on a toujours du recul, des couches de lecture différentes. C'est vrai que ma pratique aussi du répertoire du 18e, 19e siècle, 20e siècle, m'ont ouvert d'autres perspectives. Mais bon, j'aime être un caméléon stylistique, donc j'essaie toujours d'être au plus juste de ce que mon instinct, de ce que ma culture me dicte pour une œuvre et un compositeur bien donné.
Et à quel moment justement, parce que beaucoup de chefs baroques, si ce n'est tous les chefs baroques, sont passés à un autre répertoire, à quel moment un chef spécialiste de la musique baroque va explorer d'autres répertoires? Comment ça se passe?
Sujet très délicat pour moi, parce que dès qu'on
a une heure, allez-y.
Non mais vous savez, Jean-Michel, dès qu'on dit ça, jadis, je m'énerve en disant c'est pas vrai, je suis pas un spécialiste.
Bon.
Alors, avec la maturité, on peut pas renier et admettre et bouder ses racines et ce qui vous a fait connaître. Moi, tout simplement, je suis un bassoniste d'orchestre symphonique, devenu chef d'orchestre. Et la première œuvre que j'ai dirigée dans une grande académie d'été aux États-Unis, c'est le Carnaval romain de Berlioz.
C'est loin du baroque. Oui.
Voilà, Charles Bruck, l'assistant de Monteux, à qui je dois beaucoup, m'a propulsé là-dedans. Donc, vous voyez, pour moi, ça a toujours été différent, varié. Par contre, j'ai un parcours très spécial, très personnel, très autodidacte. Pour diriger, me faire connaître, plutôt que de faire des millions d'heures de conservatoire, de cours fastidieux. Enfin, aujourd'hui, c'est quand même mieux qu'avant. J'ai plutôt décidé de fonder mon propre orchestre. Mon propre orchestre, ça voulait dire un orchestre petit, raisonnable à monter. C'est ça voulait dire être dans un répertoire qui s'adapte à ce genre de formation, c'est-à-dire le répertoire baroque, à une époque où il y avait peu de jeunes.
C'était les années 80, début.
Voilà, 82, ouais, etc.
Vous aviez 20 ans, quoi. C'est fou de se lancer quand même dans une aventure comme ça, non?
C'était un hobby, si vous voulez. C'était un hobby, c'était des concerts à la recette. On verra bien ce qui se passera. Puis le hobby est devenu concret. Ma carrière de bassoniste s'est arrêtée. Tout ce que j'ai appris avec les grands maîtres dans le symphonique ou dans le baroque était mon bagage. Et puis, j'ai volé de mes propres ailes et j'ai eu des rencontres fondamentales. C'est sûr que ma rencontre avec Erato et Michel Garcin, avec Radio France... il faut pas que je dise ça sur...
On peut, oui. Nous avons l'esprit très ouvert à Radio Classique,
mais bon,
vous savez.
C'était important, avec Radio Classique d'ailleurs, après.
Absolument.
On a fait des très belles choses. Et puis les directeurs d'opéra, et Gérard Mortier, Stéphane Lissner, et Hugues Gall, et beaucoup de bonnes fées se sont penchées sur mon berceau et m'ont fait naître pour devenir... devenir ce que je suis aujourd'hui.
De même, j'imagine que pour vous, il n'y a pas de frontière finalement entre un chef lyrique et un chef symphonique, non?
Pour moi, non. Ouais. Je trouve que ça devrait jamais être le cas. C'est vrai que aujourd'hui, on n'apprend pas beaucoup la direction de l'opéra aux jeunes chefs.
On devrait.
Moi, j'adore. Je me souviens une fois, j'avais fait une masterclass où il y avait un air des Noces de Figaro, un air de Suzanne, des choses comme ça, des récitatifs. Oui, c'est des choses qui sont très difficiles pour des jeunes chefs. Et j'aime beaucoup faire ça. Et voilà, la maturité venant, j'espère que je vais pouvoir me diriger davantage dans cette direction. Parce
masterclass,
que
transmission.
Transmettre. Ouais. J'ai une façon de faire, une technique très personnelle que certains jugent incompréhensible et que d'autres trouvent totalement cohérente.
Bon, il faut s'adresser au second.
Un chef d'orchestre divise toujours, vous savez.
Oui.
Mais je sais tout de suite ce qu'un chef, un jeune chef et même un moins jeune fait de bien par instinct ou par travail. Et j'aime bien accompagner ce travail avec mes collègues. Et quand j'étais directeur de l'Opéra de Bordeaux, j'ai vu défiler beaucoup de gens que j'invite j'invitais, que je programmais, certains que j'ai fait découvrir, certains que j'ai, chez qui j'ai suscité une vocation de chef d'orchestre aussi, et c'est une grande fierté.
Alors, puisque vous parlez effectivement de l'Opéra National de Bordeaux, vous avez dirigé de 2015 à 2022, c'est rare qu'un artiste en activité dirige une maison d'opéra.
Ça se faisait beaucoup avant.
Oui, avant, voilà.
À l'Opéra de Vienne, les plus grands étaient les directeurs, à Francfort aussi. Voilà, aujourd'hui, on compartimente beaucoup les choses, on se méfie énormément des artistes managers. Pourtant, regardez Markus Hinterhauser à Salzbourg, c'est quand même un bilan, c'est un grand pianiste, un magnifique bilan. Le principal, c'est d'avoir la foi, d'être bien entouré et de d'être en contact avec le public, de comprendre ce que les autres peuvent donner ou souhaitent entendre, et voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi et
à renouveler peut-être.
Sous certaines formes, bon. Peut-être.
Votre actualité, évidemment.
J'ai toujours mon festival à l'Île de Ré,
absolument.
Que je vais festival Ré majeur, que je vais probablement bientôt amplifier toute la région Nouvelle-Aquitaine. Tout ça est en fusion actuellement.
Bon, dans les prochains.
Voire dans d'autres lieux de France aussi.
Vous allez rayonner.
Qui me séduisent.
Bon, très bien. Votre actualité, évidemment, ce soir, donc la résurrection ici à Aix-en-Provence, et puis c'est ce nouveau disque aussi. On revient à Hendel, finalement, Alcina, et on va en écouter. On écoutait l'ouverture. L'ouverture d'Alcina de Handel par les musiciens du Louvre, dirigé par Marc Minkowski, qui est ce soir l'invité du Journal du Classique depuis le hall du Grand Théâtre de Provence dans le cadre du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Marc Minkowski, vous dirigez donc ce soir La Résurrection de Handel. Et ce nouveau disque, Alcina, c'est aussi une version de concert, hein, c'est ça que vous avez donné à la Scala de Milan. Dans le rôle titre, il y a Magdalena Kojena, on va en reparler parce que c'est une artiste avec laquelle vous travaillez de longue date. Vous aviez déjà dirigé à deux reprises, hein, c'est ça, à la Scala.
Alors, nous avons fait Alcina à l'Opéra de Vienne. Dominique Meyer a quand même fait rentrer les musiciens du Louvre, premier orchestre autre que le Wiener Philharmoniker à jouer dans la grande maison.
Ça, c'est un événement, ça.
C'était un
événement.
Sacré truc. C'était d'ailleurs ma première production d'Alcina. C'était il n'y a pas si longtemps. Et là, on l'a aussi fait à la Philharmonie de Paris, on l'a fait à l'Auditorium de Bordeaux, on l'a fait à Hambourg, enfin voilà. Et vous voyez, pour moi, ce qui est formidable, c'est d'entendre un orchestre, je ne vais pas être arrogant, mais quand on sortait de scène après ces concerts, il y avait les incroyables Kojena, Morlaix, Dechong, etc. Mais on disait toujours que c'était tellement prenant d'avoir un orchestre aussi lyrique et aussi imbriqué dans leur discours avec les chanteurs, ceci grâce à notre premier violon, Alice Pierrot, qui a fait un retour après 25 ans de congé de l'orchestre, comme quoi des choses quelquefois étonnantes se produisent. Notre violoncelle solo du moment, qui était Gauthier Broutin, nos chefs d'attaque, Brion, Stéphane Rougier, David Gliden, et nos clavecinistes, etc. Enfin bon, c'est un orchestre. Et vraiment, les musiciens du Louvre, c'est un orchestre et son chef. C'est pas un ensemble vocal devenu orchestre. Et c'est une versatilité de répertoire et une présence lyrique toujours très très forte. C'est l'orchestre qui chante, c'est l'orchestre qui accompagne, c'est ça dont je suis très très fier aujourd'hui.
Et c'est une consécration aussi que de venir à la Scala de Milan, qui est une des grandes salles, avec son propre orchestre.
Absolument, c'est dans le cadre d'un concert où il y a quelques orchestres invités, mais très peu qui viennent. Encore Dominique Meyer qui sait bien...
qui vous suit attentivement, qui sait bien s'entourer aussi.
Voilà.
Et faire de belles programmations. On le disait tout à l'heure, vous auriez dû donner une passion ici en 2020, donc le confinement a tout annulé. Est-ce que 4 ans après ces annulations, et même il y en a eu d'autres aussi, parce qu'il y a eu un second confinement, est-ce que ces annulations ont toujours des conséquences, ou est-ce que c'est rentré dans l'ordre ?
Il y a encore des reports, et il y a des choses qu'on finalement on a peut-être plus mûri parce qu'on a attendu pour les faire, donc ça n'est pas si mal. La chance aussi peut-être d'avoir eu du temps pour faire cette biographie, la chance, la fierté aussi pour mes institutions que je dirigeais à l'époque, Opéra de Bordeaux, Musicien du Louvre, d'avoir pu permettre à tout le monde de toucher son chômage technique, de ne pas péricliter complètement, alors que certains corps de métier comme les chanteurs, solistes, les musiciens outre-Atlantique ont subi des pertes financières, des pertes de travail, même peut-être même de niveau individuel énorme. Donc on n'a pas trop à se plaindre de tout ça. La morale, c'est que moi je suis furieux en fait de tout ce qui s'est passé, la stupidité politico-sanitaire. Je suis d'une famille de médecins et où on sait aujourd'hui quand même qu'il y a tout ça a été totalement exagéré. Totalement idiot. Donc je suis très remonté, ma haine vis-à-vis de tous ces décideurs qui nous ont quand même bloqués est toujours très forte. Bon, là je parle un petit peu violemment, il fallait faire des choses, c'est sûr, mais regardez, moi je suis même allé au Japon faire des concerts. Alors il y a des illogismes absolument incroyables, on a répété, pas moi mais avec tout l'orchestre, avec des masques et des plexiglas pendant une semaine, et quand j'ai dit qu'est-ce qu'on fait au concert avec les plexiglas, on m'a dit ah bah là, on enlève les plexiglas et les masques parce que c'est le concert. Ah bon, très bien, donc le virus va faire un tour pendant ce temps-là, vous voyez. Mais je préférerais ce genre d'illogisme, et aujourd'hui, ces pays n'ont pas plus souffert que d'autres, donc bon.
Et tous les pays n'ont pas fermé. Monaco, par exemple, est resté ouvert, l'Espagne est resté ouvert. On a infantilisé aussi un petit peu les gens, non ? Pendant ce confinement.
Bon. Complètement.
Bon, très bien. Vous faisiez allusion à cette biographie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous livrer ?
Alors, c'est la perspicacité de mon intervieweur et, bon, et rédacteur Antoine Boulet, qui est également le vice-président des musiciens du Louvre, et qui est un grand mélomane, un musicien amateur, un grand économiste aussi, et une belle plume. Et donc, oui, finalement, bah, mon parcours qui est un peu spécial, et mes expériences très spéciales et très diverses, et mes origines aussi, qui sont une espèce d'obsession pour moi, mes origines très très différentes, très variées, très multi-terrestres. Voilà, ça, j'avais envie d'en parler. Et si je peux aussi aider quelques jeunes talents à ne pas faire d'erreur que j'ai commise, bah, en lisant tout ça, bah, tant mieux.
On sent que la transmission, c'est quelque chose d'important pour vous. Ouais, 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 ouais.
C'est vrai.
Ouais. Ça demande quelle qualité de transmettre?
Ça demande de l'énergie. Alors, comme on dit toujours que j'en ai trop, bah, voilà, très bien. Ça demande un peu d'humilité, ça demande de l'altruisme, et ça, enfin, mais finalement, c'est quand même assez simple, quoi. Je veux dire, je pense que de tout temps, en musique ou en autre chose, l'homme, ça fait partie de...
C'est naturel, quoi.
De la fonction de l'être humain, de transmettre.
Merci, Marc Minkowski. C'est la fin de ce journal du classique, donc depuis le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, et ce soir, La Résurrection, et puis ce nouveau disque aussi, donc Alcina Endel avec Magdalena Kojena. On aurait pu en parler aussi, effectivement, de Magdalena Kojena. Merci d'être venu. Merci au public du Grand Théâtre d'être venu assister à ce journal du classique. Merci à Lucille Maître pour la réalisation. Prochain enregistrement du journal du classique demain à 13h, toujours ici dans le hall du Grand Théâtre de Provence, avec Francesco Piemontesi pour le récital qu'il donnera jeudi au Conservatoire Darius Milhaud. Et dans l'immédiat, bien sûr, votre soirée se poursuit en compagnie de Francis Drezel, les variations de Francis Drezel. Bonne soirée avec Radio Classique.